17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Et oui, et aujourd'hui, Fatima Zohra Malki Ben Soltan, présidente de la Fondation Méditerranée Avenir et puis aussi de la Fondation du Dialogue Sud-Nord Méditerranée. Donc tout un programme. D'abord, bonjour, merci d'être parmi nous.
Merci à vous de me recevoir.
Alors, vous êtes une globe trotteuse de la Méditerranée. Vous passez votre temps entre Bruxelles, Paris, Tunis, Alger, Casablanca. Vous faites le sommet des deux rives avant l'heure. Racontez-nous un peu. Pourquoi cette frénésie de voyage dans toutes ces villes? Qu'est-ce qui vous a pris?
Qu'est-ce qui m'a pris? Donc déjà mes études. J'ai fait des études à la Sorbonne en droit des relations internationales, qui m'a mis le pied dans la relation internationale. Et puis, je suis née dans une ville Oran, tout ce qui est de plus méditerranéen. Donc déjà, le vécu, que ce soit personnel ou autre, a fait que je suis allée vers la Méditerranée.
Donc comme Astérix, vous êtes tombé dans la potion magique. Absolument. Et donc la Méditerranée, c'est votre écosystème naturel.
Absolument. Par la suite, c'est la réalité de la Méditerranée qui m'a amenée à m'engager dans le dialogue Sud-Nord. D'une part parce qu'on voyait cet écart se faire plus grand, que notre Méditerranée, du berceau qu'elle était, est en train de devenir
un tombeau,
que les écarts civilisationnels et de compréhension des deux rives sont en train de se creuser de plus en plus, et qu'il y a un autrement à construire par la société civile, si possible. Parce que d'une part ou d'une autre, je pense qu'il n'y a pas assez de volonté politique pour résoudre ce problème de la Méditerranée qui est devenu dramatique pour nous.
Alors, cette Méditerranée, pour vous, c'est, d'après ce que je comprends, c'est surtout la Méditerranée occidentale dans laquelle vous êtes investi. Voilà. La Méditerranée orientale, vous la laissez un petit peu pour l'instant?
Non, nous travaillons. En fait, notre association Méditerranée Avenir, elle est d'abord à Tunis. Et puis elle est composée de personnes qui sont donc dans la partie orientale également, et le Nord nous est venu en essayant de faire entendre notre voix du Nord, et je dirais que nous revenons un peu sur cette question de dialogue Sud-Nord. Nous sommes aujourd'hui sur le dialogue Sud-Sud-Nord, nous renforçons la partie donc partenariale avec les autres pays du Sud.
Alors, il y a une espèce d'anachronisme. Les pays du Nord veulent stabiliser la Méditerranée sous forme de sécurité. Ce qui les intéresse, c'est que il y ait moins d'immigration, il y ait moins de réfugiés, c'est qu'il y ait plus de paix en Méditerranée, qu'il n'y ait pas de problème de trafic de drogue, de délinquance, etc. Tout ce qu'on connaît du point de vue de la violence. Et puis vous avez les pays du Sud qui sont toujours en train de dire on va faire du dialogue. C'est un peu anachronique ça. Vous voulez dialoguer, mais dans le Nord, ça les intéresse pas trop le dialogue.
D'abord, cette question du dialogue est née à Alger. Donc en 2006, un très grand congrès où on estimait qu'il fallait dialoguer. Donc pour arriver à même résoudre des problèmes dits de sécurité. C'est pas une décision unilatérale, le fait de résoudre la sécurité. C'est d'abord de savoir ce qui se passe. Et le dialogue aurait permis ça. Mais depuis 2006, depuis qu'on a travaillé sur ce fameux congrès, puis Alger, puis Milan, puis l'Espagne, est-ce que nous maintenons cette question de dialogue al-hiwar, qui pour nous est très important dans la culture orientale, ou alors devons-nous parler d'un autre élément autrement? Nous sommes dans cette réflexion depuis que nous avons vu que finalement, depuis toutes ces années, nous avons essayé de déclencher une idée de dialogue. Nous, la Fondation, d'autres personnes, des porteurs de dialogue qui vont de Mauritanie jusqu'à la bibliothèque d'Alexandrie. Moi, je ne suis pas la seule. Nous sommes un mouvement. Mais nous nous sommes aperçus que le Nord n'est pas encore dans cette question de dialogue qui puisse nous permettre d'arriver à parler des vrais problèmes.
Mais le Nord est traversé par des idées sécuritaires. Ce qui le fait bouger, c'est surtout le terrorisme. Que ce soit Ben Laden, que ce soit Daesh, avec maintenant les gens qui sont réfugiés en Tunisie. On dit qu'environ le gros de la troupe qui venait de l'Afrique du Nord venait de Tunisie. Ils se sont rapatriés sur la Libye. Ils sont un peu rentrés en Tunisie. Le Front islamique du Salut en Algérie. Les islamistes qui sont dans la clandestinité au Maroc, qui sont très 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 influents. En fait, l'Europe, ce qu'elle veut, c'est contrôler ces mouvements un peu terroristes. Donc, elle s'implique surtout dans la sécurité de ce point de vue-là. Et comment les amener à s'intéresser à une Méditerranée plus inclusive, celle que vous réclamez?
Eh bien, tout simplement pour pouvoir s'attaquer, d'après ce qu'on a compris, à cette question de sécurité, de terrorisme, il y a d'autres moyens que la guerre ou il y a d'autres moyens que la restriction. Il y a aussi l'éducation. Arrêter le mouvement de radicalisation de certains ou tout au moins le freiner. Et là, je vous donne l'exemple que j'avais proposé à Paris et que nous faisons donc en Tunisie. Il y a quelques années, puisque Méditerranée à venir d'abord est né à Paris en 2006, avant que des problèmes se posent de déplacement des personnes. Donc les personnes qui étaient dedans trouvaient des difficultés de se déplacer sur Paris. Et nous avions proposé à l'époque de monter des activités dans les banlieues avec des gens qui sont sortants de l'ENA, des retraités, qui maîtrisent la culture et le dialogue de telle manière à créer. Moi, je suis pour l'éducation. Je suis pour l'éducation de base, pour semer. Il y a des personnes qui sont à résoudre les grands problèmes, mais on constate qu'en travaillant dans la base, et nous avons vécu ça à Tunis, nous pouvons arriver petit à petit à implanter autre chose que cela.
Alors, la base pour vous, et j'ai vu surtout les jeunes et les femmes. Ouais, vous faites un gros travail en direction des femmes. Je crois que vous avez monté d'ailleurs une grosse opération au profit de 350 femmes avec le Crédif. Vous avez appelé ça la réussite au féminin. Pour vous, la femme, elle est détentrice de solutions, de dialogue et de pacification?
Absolument. Tout ce qu'on constate au niveau, en tous les cas, de la partie sud, je parle de ce que je connais le mieux, c'est qu'il y a une émergence des femmes, d'abord sur la scène publique, ce qui n'était pas... Deuxièmement, au niveau des études, et troisièmement, sur une conscientisation. On se rencontre entre nous, et elles vous diront, moi, je ne suis pas qu'une mère, je ne suis pas qu'une épouse, je ne suis pas... Mais je suis aussi un acteur de la société. Voulant sauver les enfants, voulant sauver les familles et autres. Et donc, elles sont, si vous voulez, sur la scène comme acteurs. Et vous avez parlé des 300 et quelques femmes que j'avais donc organisées à une formation au niveau du Crédif. L'objectif était de les aider à mieux gérer leur carrière, mais aussi à postuler à des statuts d'acteurs dans la société ou dans le lieu où elles étaient. Et nous avons eu des femmes députées, nous avons eu qui sont devenues par la suite députées suite à ce type de formation. La prise de décision est un peu plus grande.
Fatima Zohra Malki Ben Soltan, nous avons connu récemment deux crises économiques, une grosse crise sanitaire avec l'épidémie de Covid et puis maintenant les guerres. Et on s'est aperçu, ça a été les conclusions de pas mal de sommets Euromed, que en tout cas la fracture entre le nord et le sud s'est aggravée. Absolument. pendant ces trois crises. Absolument. Et que elle s'est aggravée au détriment des femmes en particulier, qui ont été lourdement touchées par le chômage, donc qui ont été reléguées à la périphérie de toutes les activités. Et comment votre association compte s'y prendre pour remédier un peu à ces fractures et à cette espèce de relégation des femmes, elles retournent à la maison. Comment votre association peut s'investir pour pallier à cette fracture?
En tous les cas, le constat qui a été fait, la fracture a été plus forte au nord parce qu'il y avait plus de femmes dans le monde professionnel. Donc chez nous, on l'a pas senti autant, si ce n'est qu'elles n'ont pas déserté les entreprises, mais le fait que l'entreprise ne fonctionnait plus, tout le monde, quelque part, l'a déserté. Mais ce que nous constatons, c'est l'intérêt pour l'entrepreneuriat, et particulièrement l'entrepreneuriat solidaire qui se met en place. Si nous faisons des statistiques, en tout cas au niveau de la Tunisie, sur le nombre de femmes qui sont en train de se former à l'entrepreneuriat, qui veulent monter donc des entreprises... Je pense que c'est une nouvelle donne qui se met en place sur cette question, en tous les cas, de retour dans la vie professionnelle. Mais personnellement, ça a été plus dur à notre avis en Europe que chez nous.
Vous êtes dans un process qui s'appelle réussir en entreprendre ensemble. Oui. Donc pour vous, vous avez cette idée du collectif. revient sans arrêt dans l'ADN de votre association.
Absolument.
Il est très présent, et c'est tout à votre honneur. Vous voulez réussir avec tout le monde, quoi. On réussit pas tout seul. Absolument. Vous avez mené différentes actions de 2016 jusqu'à 2019, et vous êtes beaucoup investi dans la formation transfrontalière. C'est assez original, parce que lorsqu'on reçoit ou qu'on rencontre des associations, elles sont toujours dans un nationalisme souvent étriqué, dans une souveraineté un petit peu jalouse. Et là, vous carrément, vous êtes transfrontalière. Pourquoi cette idée?
Peut-être par mon tempérament, ma façon aussi de voir les choses, mais lorsque j'ai eu à travailler sur ces 380 femmes, mais plus travailler sur les femmes diplômées des régions défavorisées de Tunisie, frontalières, de l'Algérie et de la Tunisie. Dans les discussions que nous avons eues avec ces femmes-là, frontalières, où peu de gens y vont, s'intéressent au centre, au milieu, aux zones touristiques, mais... Et là, toutes ont émis ce vœu de pouvoir travailler transfrontalier, parce qu'elles avaient des fois plus de contacts avec les femmes de l'autre frontière que plutôt avec des fois avec la ville. Ainsi, par exemple, les femmes de Tal Jenoub du sud tunisien étaient plus en contact avec les Libyennes que des fois avec les femmes. Et le cas présent également, celle du Kef en Tunisie, était plus à côté des femmes de Sokharas que peut-être de celles d'Alger. Et donc là est venue cette idée importante de transfrontalier, et nous avons aujourd'hui un réseau. Si nous avons les moyens financiers, je reviens à cette question de financement de l'association, les moyens ont été bloqués totalement par le Covid. Totalement.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan.
Toujours avec Fatima Zohra Malki Ben Soltan, présidente et fondatrice de l'association Méditerranée Avenir, et puis de la Fondation pour le Dialogue.
Vice-présidente de la Fondation.
La Fondation pour le Dialogue, Nord-Sud, Sud-Nord, Sud-Sud, avec d'autres gens. Vous nous en parlerez dans un instant. On était en train de parler des formations transfrontalières, et dans cette idée de transfrontalier, vous avez un projet de caravane, de route interculturelle pour 2023.
Oui.
Racontez-nous un peu ce projet.
Je voulais d'abord juste revenir un instant sur ce qu'a produit le transfrontalier. En dehors du fait que les gens se sont formés, on a constaté que les femmes portaient un message assez intéressant d'union, que des fois on ne voit pas dans les formations un peu séparées. Et donc, de la formation à l'entrepreneuriat solidaire, on est arrivé à discuter véritablement quelle union, quelle solution pour cet espace transfrontalier. Et ça a produit des projets communs. Les femmes de Libye se sont entendues avec des femmes tunisiennes pour monter des projets communs. Et aussi, les femmes tunisiennes avec les femmes algériennes ont pensé des projets communs. Ça a été, moi, extraordinaire, cette rencontre. Comme quoi, quand on touche ce domaine du transfrontalier par le biais des femmes, on découvre un autre monde que l'on ne voit pas.
Surtout, ce qu'il faut expliquer, c'est que la femme, elle est détentrice d'une culture locale.
Absolument.
Qui est ancestrale.
Absolument.
Et qui est souvent la même de la Libye au Maroc.
Absolument.
Que ce soit par les recettes de cuisine.
Absolument.
Par le couscous, par la broderie, par la confection de tapis, les paysans dans toute l'Afrique du Nord, au même moment de l'été, ils ont une pratique où ils brûlent les mauvaises herbes, et ça se passe du Maroc jusqu'à la Libye.
Absolument.
Le même jour, au même moment. Il y a des pratiques culturelles, des pratiques historiques qui sont les mêmes. Donc c'est la femme allait dans cette dynamique, puisque c'est, je veux dire, historiquement, c'est elle qui est un peu la dépositaire à la fois de ces traditions, de ces cultures. Donc elles ont pas beaucoup de chemin à faire pour se mettre d'accord et savoir, avoir le sentiment qu'elles sont issues du même moule, je dirais, entre guillemets, quoi.
En tout cas, je vous remercie de mettre le point sur cette appartenance culturelle qui est vraie, nous a facilité les choses.
Un terreau identique.
Il nous a totalement facilité les choses. Nous-mêmes, nous étions étonnés de découvrir entre la Libyenne, Sokharas que je connais, mais le Kef ou Tataouine, il y avait tellement d'éléments communs.
La galette de blé, elle est la même partout.
Absolument.
Ouais. Et, et, Et donc, alors, cette route interculturelle, c'est quoi? C'est un projet avec des femmes et des jeunes, apparemment, alors, que les jeunes aussi vous intéressent.
Oui, c'est surtout les jeunes. Donc, nous avons touché les jeunes dans un projet, dans un programme très important à l'époque. Donc, il n'a pas duré, faute de pouvoir, je vous dis, circuler entre les deux. C'est avec l'Université de Haute-Savoie, où des jeunes, à peu près une vingtaine de jeunes, sont arrivés à Tunis pour participer à l'époque au Forum social mondial. Ils ont participé avec aussi une vingtaine de jeunes tunisiens, mais également des Algériens. Et ils ont monté ce qu'on appelle en route pour le Forum social mondial. Mais ils ont produit des projets. Le premier projet, c'est un conseil des jeunes de la Méditerranée. Et je souhaiterais que ceux qui nous entendent sachent qu'il y a des jeunes qui postulent dans les deux rives de la Méditerranée à créer un conseil des jeunes de la Méditerranée. Le deuxième projet, c'était cette fameuse route interculturelle des Fatima. C'est pas parce que je m'appelle Fatima, mais c'est qu'il y a le prénom de Fatima dans la partie sud et au Portugal. Et l'image d'une féminité dans une route interculturelle est sortie de ce groupe de jeunes, disant qu'il faut monter un projet interculturel qui partirait de Tunis, l'Algérie, si on pouvait, donc que nos frères et nos sœurs marocaines nous rejoindraient, soit en Espagne ou autre, vu les frontières, et se retrouver dans la ville de Fatima, et à chacune des étapes se rencontrer sur un sujet donné. Là encore, ce projet a été bloqué par le Covid, par les moyens de financement.
On retrouve même les Fatimas dans le sud de la France avec les Ziganes et les Romanichels, voilà. qui ont le culte de Fatima. Ils se retrouvent tous les ans à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, voilà. pas loin de Montpellier. Donc, voilà. c'est
donc
vrai
le
que...
prénom de Fatima réunit les deux religions, les deux. Et là, c'était. Bon, je suis très contente de le porter. Mais en même temps, ça nous a permis aussi de monter un projet qui est là. Il est écrit, il est budgétisé. Il ne manque qu'un financeur pour le faire.
Ouais. Alors, on va parler bien sûr des financeurs. Donc on voit bien Méditerranée à venir, une association en direction de la formation, en direction des femmes, en direction des jeunes, qui existe depuis 2012, et donc un travail incessant. Je veux dire, vous n'avez jamais fini. Et là où vous allez, en général, vous récoltez un accueil sympathique, un succès d'estime,
absolument.
Mais vous n'avez pas de moyens.
Voilà, donc si...
Alors comment vous faites? Comment vous vous débrouillez?
Alors pour, disons, travailler, il y a d'abord, nous tablons sur le bénévolat, mais jusqu'à une certaine limite. Et il y a ce qu'on appelle des sponsors du moment. D'abord, je tenais à remercier sur l'antenne l'Université Esprit de Tunis, qui nous donne toute la logistique. Donc ils ont décidé de soutenir cette association.
Logistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire les billets d'avion?
Non,
ça veut dire
tout ce qui est déjà bureau pour travailler, internet, des fois même des moyens de transport.
D'accord.
Et même des fois des moyens de communication.
Ça c'est local, à Tunis alors?
À Tunis. Maintenant, quand nous faisons des activités, nous demandons d'abord aux participantes, pour ne pas avoir le fait d'être assistées, nous souhaitons que les gens soient des acteurs, pas des assistés, de participer quelque part par les frais de transport. Et le reste, ce sont des gens, des sponsors qui viennent donc soutenir l'association, tels que par exemple le comité des femmes d'ambassadeurs de Tunisie. Nous avons une fondation allemande qui nous avait aidés. Nous avons des fois du local qui aide. Et on arrive à monter quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de sympathie, beaucoup de soutien. Mais c'est insuffisant si nous voulons monter à une échelle beaucoup plus grande. Mais je pense qu'on a apporté de la sympathie, de l'acceptation par la nature des gens qui sont dans cette association.
Alors, comme vous le savez, il y a différentes organisations. Il y a l'Euromed, c'est-à-dire en fait qui est une grande manifestation annuelle en direction des pays de la Méditerranée. Donc ça a lieu chaque année. En ce moment, on y est. Hein. On est en plein Euromed. Il y a l'Union pour la Méditerranée, qui avait été voulue un peu par le président Sarkozy à l'époque, dont le siège est à Barcelone. Et on a eu ensuite le sommet des deux rives, où le président de la République Emmanuel Macron a souhaité que la société civile des 5+5, 5 pays du Nord, 5 pays du Sud de la Méditerranée occidentale, puisse travailler en commun, élaborer des projets. Ça a été l'appel des 100 qui a eu lieu à Tunis en juin 2019, qui s'est conclu à Marseille par les engagements de Marseille, où 10 ministres des Affaires étrangères, donc y compris le Tunisien, l'Algérien, le Libyen et le Mauritanien, le Marocain, étaient présents, donc avec les pays du Nord, Portugal, Italie, France, Espagne. Ensuite, tout récemment, aussi la rencontre en février 2022 à Marseille, hein, sur les partenariats. Et vous n'avez jamais été présent dans ce genre d'organisation?
On entend parler beaucoup de ces, et nous n'avons pas été présents. Est-ce qu'on invite les uns et pas les autres? Je ne sais pas. Mais dans le cas présent, nous avons entendu, et très souvent, quand il arrivait ce type de situation, nous étions sur terrain. Nous étions quelque part à Tataouine, au Kef, ou à courir à droite, à gauche pour ça. Mais c'est vrai que nous entendons parler et nous souhaiterions que des gens puissent aussi connaître des associations qui travaillent comme nous sur le terrain et qui n'ont pas... En fait, on n'est pas dans le matu vu beaucoup. On est surtout sur le terrain et de dire voilà ce qu'on fait. Mais je crois qu'il est temps. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une maturité avec un réseau intéressant, avec des gens dans les régions où il est temps aujourd'hui que ces grandes institutions s'intéressent tout au moins au niveau de ce qu'on produit, parce que je voulais dire aussi que ce qu'on produit fait on en fait des rapports et en disant voilà ce que nous société civile on est en train de faire et de découvrir. Peut-être que ça va peser sur la décision, la grosse prise de décision, peut-être pas, mais dans le cas de la Tunisie, je tenais à revenir à un exemple que nous avons eu. En 2016, nous avons organisé, non, 2012, nous avons organisé un grand congrès à Tunis sur société civile, pouvoir public, quelle relation. Il a été ouvert à l'époque par le Premier ministre tunisien. Il y avait des représentants de l'Assemblée nationale. Ce qui a été intéressant, c'est que l'Assemblée nationale a repris pour elle une recommandation de ce congrès. Par la création, en agréant des associations pour être dans l'Assemblée nationale, entre autres. Donc c'est ce type d'action que nous voulons mener, c'est que nous travaillons, nous montons, et est-ce qu'il faut que ça monte à plus haut niveau, nous remontons à plus haut niveau. Et donc, est-ce que ces rencontres permettent ça, donc que vous avez cité? Doit-on seulement titiller la volonté politique des uns et des autres? Mais nous avons aujourd'hui un gros travail qui a été fait. Parallèlement, je n'ai pas parlé de la Fondation du Dialogue Sud-Nord, nous avons la déclaration d'Alger, qui est aujourd'hui carrément d'actualité, la déclaration de Tunis, la déclaration d'Alicante, nous avons la déclaration de Milan. Ben, que ces documents arrivent à qui de droit?
Justement, à propos de ces déclarations et des moyens, on y revient dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, toujours avec Fatma Zora Malki Ben Sultan, présidente de Méditerranée Avenir et de la vice-présidente de la Fondation Sud-Nord. On arrive un petit peu, je dirais... à la Méditerranée, telle que, par exemple, idéalement, on l'a décrit, Fernand Braudel disait que la Méditerranée, ce sont que des routes, que des circulations, et qu'il y avait un tas de choses en commun, hein, les théâtres antiques romains, le blé, la vigne, l'olive, etc., et que tout ça circulait, la poésie, la mythologie, donc il y a vraiment un bain commun. Et aujourd'hui, il semblerait que les nouvelles circulations, les nouvelles routes, c'est au niveau de l'énergie, au niveau du gaz, au niveau du pétrole, au niveau des énergies renouvelables comme les éoliennes, comme l'hydrogène, comme le plancton. Donc on est en train de créer des nouvelles routes pour se faire parler un peu les pays méditerranéens. Mais on a l'impression que cette histoire est un peu bloquée. On voit quand même un peu les divergences entre les différents pays, que ce soit du Nord, entre les pays du Nord ou entre les pays du Nord et du Sud, avec un manque de volonté manifeste, en tout cas, des pays nordiques, de l'Allemagne en particulier, qui n'est pas très intéressé par la Méditerranée. Comment imaginez-vous que ces nouvelles routes pourraient, d'abord, comment travailler pour leur fabrication et comment pourrait-elle vous aider? Comment pourrait-elle devenir une priorité pour vous? Comment pourriez-vous faire en sorte que ça devienne une priorité, en tout cas, des pays du Sud et du Nord? Qu'est-ce qu'il faudrait comme déclic de la part de ces pays?
Si je devais partir de l'expérience qui fait les déclics, parce que c'est vrai que nous avons eu des expériences.
Excusez-moi, parce que l'enjeu, il est démoniaque. Je veux dire, les 10 villes les plus chaudes de la planète sont en Méditerranée. La planète, s'il y a une grosse menace d'un point de vue écologique et de biodiversité, c'est en Méditerranée. Donc il y a urgence. Donc vous devriez pas avoir du mal à solliciter les gens et à ce qu'ils vous aident.
Oui, je vous dirais que jusqu'à maintenant, il y avait d'autres priorités. Les gens sortaient un peu des mouvements. Et donc, ils étaient là encore. Mais depuis un moment, on constate, et particulièrement chez les jeunes qui maîtrisent très bien les nouvelles technologies, et ça, le constat qu'on est en train de faire sur terrain, cet intérêt, justement, pour les nouvelles technologies, pour les énergies renouvelables et autres. Mais nous avons constaté que c'était d'abord cette population-là, peut-être parce qu'elle maîtrise mieux l'enseignement et le reste. Et donc, je crois qu'il est temps de faire, comme nous avons fait des programmes Entreprendre et Réussir Ensemble, peut-être un programme, justement, dans ce sens-là, vu qu'il y a une population qui pourrait le mener, en l'occurrence, celle qui maîtrise les nouvelles technologies de l'information.
Donc, cette technologie de l'information et du numérique, c'est une nouvelle langue, c'est la langue commune. Est-ce qu'on pourrait pas aussi, parce que en fait, les gens peuvent circuler, la mobilité est extrêmement importante, et toutes les rencontres appellent aux Erasmus, aux échanges, à la mobilité, à l'accélération des visas, des artistes, des chefs d'entreprise, des étudiants, des associations. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, parce que les gens, il faut que les gens se parlent entre eux, dès l'école maternelle, faire en sorte que les enfants de Méditerranée puissent au moins maîtriser 4 langues. Je dirais l'arabe, le tamazir, l'anglais et le français. C'est-à-dire que chaque enfant du pourtour méditerranéen, dès son plus jeune âge, devrait maîtriser au minimum ces 4 langues. Après, à charge pour lui de rajouter l'espagnol, l'italien, etc. Mais ces 4 langues étant des langues majeures du pourtour méditerranéen, est-ce qu'il ne faudrait pas œuvrer pour que ces 4 langues, pour que l'enfant les connaisse? Et à ce moment-là, se parler, ça règle beaucoup de choses.
Oui, certainement. D'ailleurs, on le voit dans notre association. Non, ce n'est pas des enfants, mais des gens qui maîtrisent les langues. En l'occurrence, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le tamazir. On voit que ça lie les gens. On a toujours besoin de quelqu'un qui parle la langue. Mais en dehors de la langue, qui serait enseignée dans le primaire, le secondaire, il y a intérêt à ce qu'il y ait, comme on faisait donc quand on était jeune, des rencontres entre les jeunes des deux rives, les enfants des deux rives. Il est bon, nos touristes à nous qui viennent chez nous, c'est des seniors, viennent se reposer. Mais pourquoi pas aussi organiser des rencontres de ce type-là, faire en sorte que de visu, vous savez que les orientaux sont très dans l'émotionnel, et qu'il est important peut-être aussi de réfléchir à ce type d'action.
D'accord. Et sur ces échanges, il y a manifestement un problème de gouvernance. C'est-à-dire que, est-ce que des actions comme les vôtres ne pourraient pas être dans les gouvernances locales, c'est-à-dire dans les gouvernorats, dans vous nous avez parlé de l'Assemblée nationale tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez être associé aux décisions de financement? Par exemple, les financements, tout le monde sait que c'est la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, c'est la Deutsche Bank, c'est le CMI de Marseille. Manifestement, vous n'arrivez pas à joindre. Vous n'êtes pas considéré, vous n'avez pas la bonne porte. Parce que, finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, les projets, etc., tout le monde, en fait, quand il y a des colloques ou quand il y a des réunions, les gens répètent la même chose. Voilà. En général, voilà. Ça fait maintenant une vingtaine d'années. Je me rappelle, c'était des chroniques, des articles de Chris Patten, le commissaire européen, qui une fois par an faisait un article dans Le Monde. Et puis c'était fini, quoi. On passait à autre chose. Donc les enjeux sont connus, les problèmes sont connus. On a l'impression que c'est des redites permanentes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour arrêter ce cycle de morosité permanente? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait vraiment une prise en charge des vrais projets et d'aider des associations comme les vôtres? Il faudrait quoi?
Tout d'abord, la médiatisation. Tel ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'est passé également, quand je parle du Nord, hein, et que aussi au niveau de notre pays. Nous sommes arrivés à un stade aussi, je vous dis, on a eu un coup très, très, très dur avec le Covid, mais on ne peut pas s'imaginer la dureté de ce coup parce que nous étions en présentiel. Et qui dit présentiel, bouger, se rencontrer, la proximité. Donc là, nous nous sommes rencontrés, le comité, il y a des gens nouvellement recrutés, dont des personnes qui maîtrisent les nouvelles technologies, et nous avons posé comme premier problème la médiatisation. Dire ce qui se fait et qu'on existe, plus. Le deuxième point, c'est, qu'on le veuille ou pas, ces grandes institutions ont leurs canaux, ont leurs groupes, en leurs amis. Maintenant, faut-il, nous, aller toujours faire du... Je vous dis, on est tellement sur le terrain que des fois, on ne va pas faire du porte-à-porte. Donc, la médiatisation devrait servir comme celle d'aujourd'hui. Et de dire, voilà, il y a autre chose que les rencontres, il y a autre chose que le blablabla, il y a autre chose que... Aujourd'hui, il y a du terrain. On peut vous remonter ce qui se passe réellement dans le terrain et on peut le faire ensemble. Comment? Je pense qu'il y a lieu à ce qu'on se rencontre dans l'association et que nous réfléchissions. Soit j'ai eu d'ailleurs au niveau de Bruxelles où j'ai fait une rencontre où c'est vrai certaines personnes nous ont dit allez vers ces grandes institutions, on vous soutient par derrière, mais aussi avec des gens comme vous qui médiatisez, de dire voilà des gens qui font autre chose, nous sommes dans l'autrement totalement dans la Méditerranée. Ils ne sont pas dans juste à pleurer nos morts, mais on se dit qu'il faut travailler les vivants.
Parce qu'il y a des signaux très concrets. Par exemple, en Sicile, le maire de Palerme a imposé dans les cantines le régime crétois. Donc le régime crétois, c'est le même régime qu'à Indram en Tunisie, qu'en Kabylie, où voilà, c'est le régime méditerranéen, beaucoup de légumes, beaucoup de marches, etc. Il s'est imposé dans les cantines. Par exemple, mettre ce régime méditerranéen dans toutes les écoles du pourtour méditerranéen, déjà, et le médiatiser et dire que c'est la Méditerranée, ces enfants auraient déjà une espèce d'enseignement pratique par l'alimentation. Il serait que, voilà, lorsqu'ils mangent à midi, ils mangent méditerranéen, et que méditerranéen, ça veut dire quelque chose, que c'est le voisin d'en haut, le voisin d'en bas. Je veux dire, c'est des choses très concrètes qui pourraient se faire.
Eh bien, il y a des... Je ne dis pas que... Là, c'est institutionnalisé, ce dont vous parlez, c'est-à-dire carrément monter des programmes dans les structures. Mais aussi partir du vécu. Vous allez dans une famille tunisienne ou la Kabyle, vous partez à Oran. On vous parlera de l'art culinaire hispano-oranais. Partez en Kabylie, nous avons un art culinaire berbère, mais qui est aussi dans toute la Méditerranée. Vous allez en Tunisie, vous avez la cuisine italo-tunisienne. Donc, il y a déjà des éléments. Maintenant, comment les institutionnaliser? C'est aussi, comme je vous ai dit, par des programmes qui pourraient être proposés, dans ce cas, aux responsables. Mais je vous dirais que ce dont, vu un peu l'ampleur du travail, ce qui serait important, c'est de toucher les femmes. Revenir sur les femmes, en tant que mère et en tant que citoyenne. Nous, quand nous montons des activités vers les femmes, et je ne suis pas en train de faire du sexisme, mais de dire, nous avons constaté qu'elles étaient porteuses beaucoup plus d'un langage vers les familles que les hommes, et que deuxièmement, elles étaient aussi dans une perspective d'acteurs plus actifs. Je vous prends un cas, je vous donne des cas concrets. Nous avons à Tataoui, une jeune femme qui s'appelle Eya. Cette jeune femme est un ingénieur et qui était peut-être même, je ne le sais, enfin, presque sûre, candidate à l'immigration. Nous avons travaillé avec elle sur un projet qui était celui de l'emballage bio. Elle a monté un emballage bio. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'une fois que son projet fonctionne et elle a besoin d'argent pour le continuer, elle a décidé de rester dans sa région, Tataouine, qui est quand même loin de la capitale. en disant que, outre mon entreprise, je veux devenir un acteur de développement dans ma région. Elle n'est pas mariée, mais cette femme, quand elle se mariera, il est sûr qu'elle va transmettre un langage aussi de, Yannick, comme on a dit, de liens et de... Et elle est dans notre formation transfrontalière. Elle nous parle Libye et elle nous parle Socaras. C'est ça qui est important.
C'est super. Eh bien, écoutez, merci mille fois pour... En tout cas, on va terminer sur cet exemple qui est magnifique. Merci Fatma Zora Malki. Ben Soltan, vous êtes présidente de Méditerranée Avenir et vice-présidente de la Fondation Sud-Nord pour le Dialogue. Vous êtes chez vous ici et on vous attend une prochaine fois quand vous voulez.
Tous les quatre, merci. Un grand merci parce que là-bas, à Tunis, on m'attend. À Alger, on m'attend.
Okay.
Je dirais même que dès que vous allez la passer, tout le monde va entendre. Oui. Donc, ils étaient là ce matin à m'envoyer des postes en disant, on va entendre ce qui se passe.
Eh bien, écoutez, vous êtes la bienvenue quand vous voulez, autant de fois que vous voulez.
Merci,
merci beaucoup et à très bientôt.
Merci. Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.